France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les cuisines régionales sont souvent mal connues, parodiées, déformées. Les citadins, notamment, ont souvent accès à une version grossière et peu authentique de certaines cuisines régionales. Dans l'imaginaire collectif, la cuisine alsacienne est lourde et grasse. On pense à la choucroute, à la saucisse, à la flammenkuche, au spechle, bref à des mets qui nous font sortir de table avec une envie pressante de faire la sieste. Les vins de la région, quant à eux, feraient mal à la tête et seraient de piètre qualité, bien que ce cliché ait quasiment disparu aujourd'hui face aux innombrables vins d'exception que produit le vignoble alsacien. Ce numéro du Pays d'ici de Yves Aumont tente de défaire tous les préjugés autour de la culture gastronomique alsacienne, en évoquant en profondeur les fêtes, les repas et les rituels qui font la richesse de ce terroir. En direct du forum de la FNAC à Strasbourg, il invite les historiens Jean-Claude Richez et Claude Auberlet, la sociologue et anthropologue Annie Bloch, le psychologue Philippe Breton et Julien Kern, à former une résistance contre ce qu'ils appellent une muséification des traditions gastronomiques régionales. Entre débats et reportages, entre discussions et dégustations, cette émission analyse l'évolution des Weinstübs alsaciens, évoque l'origine des bretzels, ou encore nous apprend les différents cépages de ce terroir si particulier. Une petite heure riche en découvertes donc, réalisée par Jean-Yves Bizet, est diffusée pour la première fois le 17 octobre 1996.
En direct et en public au forum de la FNAC, avec le Pays d'ici, nous rejoignons à Strasbourg, Yves Aumont et Jean-Yves Bizet. Aujourd'hui, troisième émission, cuisine et convivialité.
Arrivé au carrefour, il se demanda quel chemin emprunter. Sur la carte, il avait repéré les itinéraires nombreux qui s'offraient à lui. Route de la choucroute, route de la carpe frite, route du houblon, route de la mirabelle, route des vins. Circonspect et légèrement égaré, il décida tout bonnement de faire une pause et de déjeuner sur le pouce en attendant de trouver quelqu'un qui veuille bien se mettre à table. Jean-Claude Richez, bonjour. Vous l'avez compris, dans cette troisième émission, je vous demande de vous mettre à table ici en direct du forum de la FNAC. Est-ce que j'ai d'abord oublié quelques routes gastronomiques dans ce premier petit parcours ?
Certainement, il y a prolifération aujourd'hui des routes. On est entré dans un système de muséification généralisée qui tue l'art du voyage. Parce que l'art du voyage, c'est quand même de se perdre, de divaguer. Et je pense que c'est contre-productif. On organise ces routes pour promouvoir le tourisme, mais je pense que à terme, ça va le tuer.
Annie Bloch, vous avez pris la route. Vous préférez, je dirais, aller par des chemins de traverse culinaires ?
D'une manière générale, c'est vrai que je préfère être surprise, mais quand on parle de la cuisine, on parle aussi du cadre dans lequel la cuisine se mange et se fait. Et finalement, moi, j'aimerais bien aussi parler des couverts, des services, des nappes qui sont en Alsace très importantes. Dans chaque Weinstub, vous êtes accueilli. Il y a une nappe, en général, un petit carreau qui est là et qui crée une différence, si vous voulez, entre la matière bois et ensuite les couverts sur lesquels vous allez, ou dans lesquels vous allez manger.
Roland Oberlé, vous qui avez fréquenté les Wienstube, qui fréquentez aussi, je dirais, les bons plats alsaciens, on en reparlera, puisque vous êtes l'auteur d'une histoire des pâtes d'Alsace, un petit livre qui nous parle, non pas de choucroute, mais effectivement d'une autre recette. Alors peut-être que l'Alsace et l'Italie ont des liens secrets que nous découvrirons ensemble. Vous empruntez ces fameuses routes de la choucroute ou,
Le moins possible. Le moins possible, je suis de l'avis de Jean-Claude Richet, je crois. Le problème, c'est qu'on institutionnalise une espèce une vadrouille. Et en fait, on finit par se rendre compte, lorsqu'on fait des petits sondages à l'extérieur, on finit par se rendre compte, je suis Sungovien par exemple, je connais bien la route de la carpe frite. Eh bien, j'ai découvert une carpe frite absolument géniale dans le ride barinois, non loin d'Erstein. Que j'ignorais totalement et que j'ai découverte avec ravissement. Alors qu'il vous arrive parfois d'avoir des découvertes particulièrement désagréables, même si la Wienstube en question est porteuse du panonceau. Ça ne veut rien dire, en fait, je crois qu'il y a... Et puis je pense qu'il y a aussi cet aspect un peu, comme disait Montaigne, cette allure à saut et à gambade, je crois, qui manque un peu aujourd'hui. Tout est compartimentaux, etc. Je ne sais pas si c'est tellement une bonne chose.
Julien Kern, vous avez pratiqué ces routes en autostop ?
Non, pas en autostop, non, j'ai déjà pratiqué un peu ces routes, surtout effectivement pour montrer un peu à des gens qui n'étaient pas d'ici ce que pouvaient être les villages d'Alsace, mais c'est vrai que c'est très touristique, c'est très récent, c'est un peu artificiel, quoi, en fait.
Votre route préférée à vous, c'est quoi ?
Alors, je n'ose pas le dire, c'est la route du vin, quoi.
C'est une bonne route. Alors bon, puisque vous me parlez de vadrouille, je vous propose un premier petit tour d'horizon, je dirais, de Guingois. Ce qui peut réunir du monde, c'est une bonne table, j'allais dire une bonne scène.
Oui, mais pour y faire quoi? On n'y fait pas que manger à une table, on peut aussi y boire. Le drame de Strasbourg, c'est qu'il n'y a pas de café. Alors le café, c'est quand même le lieu d'une convivialité possible, qui n'est pas une convivialité forcément lourde, qui peut être une convivialité de passage, le bistrot, le café. Il y a, je crois, à peu près 600 restaurants à Strasbourg. Très très peu de café, presque sur les doigts d'une main. Alors on comprend, il y a un souci de rentabilité. Avec le tourisme, il vaut mieux transformer les cafés en restaurants, c'est plus rentable. Mais enfin quand même, il y a là un élément de convivialité qui manque, assez fondamentalement. Le restaurant ici, c'est le lieu de la lourdeur. Assumé, volontaire. Parce que les nourritures qu'on mange en Alsace... sont des nourritures qui ne sont pas connues pour leur légèreté, qui sont des nourritures riches, des nourritures qui pèsent dans le corps, hein, des nourritures qui enracinent. Hein, quand on est bien nourri, quand on est dans cette nourriture-là, choucroute, gâteau, etc., on descend, on n'est pas tellement poussé vers l'autre. C'est trop manger sépare, hein, les hommes. On n'est pas tellement poussé vers l'autre, on est plutôt poussé vers le bas, vers le sol, vers les racines. Hein. On s'enracine à trop manger, on s'enracine à manger des choses.
Oui, mais en même temps, les libations sont des moments de confidence.
Oui, est-ce que la confidence en Alsace est possible dans les restaurants? Le vrai restaurant alsacien, c'est le Wienstube, dans lequel on est les uns sur les autres. On est dans les genoux de son voisin, où il y a un bruit très important, où... Pas question de confidence dans un lieu comme ça. Tout Strasbourg le sait immédiatement, car dans un Wienstube, évidemment, toujours quelques tables où vous connaissez. Difficile, c'est pas une ambiance feutrée dans laquelle on peut échanger des paroles complices. C'est le lieu d'une parole publique, c'est vraiment l'espace public. C'est le restaurant transformé en espace public, un espace public envahissant, puisque la part du privé, du convivial privé, n'y est pas très forte.
Pas mal un espace public quand même, c'est un lieu où on peut disserter sur la vie et les choses tout en mangeant.
Oui, où on peut parler à son voisin.
Je faisais l'éloge de la confidence, mais on peut aussi apostropher son voisin.
On peut parler avec son voisin, c'est ça qui est bien dans les Wienstube. C'est-à-dire que comme vous êtes sur les genoux de quelqu'un, vous êtes côte à côte, là forcément il y a un moment où il faut, si vous êtes comme ça... avec un verre de vin, un verre de Riesling, il faut que vous parliez avec votre voisin. Il faut payer le prix de lui toucher les genoux, cette personne que vous ne connaissez pas, d'être contraint à être contre lui. Donc on lui parle, on échange, c'est effectivement un lieu où on peut pas forcément faire des rencontres, mais où on peut se détendre, et se détendre, c'est aussi se répandre, voir le corps qui s'ouvre, le corps qui se dilate et qui touche le corps de l'autre.
Et ça pesantir avec la choucroute.
Et ça pesantir avec lui. Alors on s'apesantit ensemble et on descend vers le sol de nos racines ensemble, avec cette nourriture. Il vaut mieux pas être végétarien dans la région.
Il y a une attraction terrestre importante.
Une pesanteur. On est au fond d'une vallée. À l'est, la forêt noire, à l'ouest, les Vosges. Au milieu, le Rhin. Les brouillards s'apesantissent. Ils restent. Les brouillards restent dans la région. Ils ne s'en vont pas facilement. C'est un gros problème, d'ailleurs, pour la pollution. Tout reste dans ce fond de vallée. C'est une mer, hein, Strasbourg. La plaine du Rhin, c'est une mer. C'est du gravier. Ici, on creuse un peu, on trouve du gravier. Il y a quelques millions d'années, c'était une mer. Et on est là, au fond de la plaine du Rhin, avec cette légère sensation de lourdeur que provoque le fait d'être en Alsace, d'être alsacien, d'assumer cette lourdeur.
Roland Berlier, j'espère que ce petit enregistrement sur la lourdeur n'a pas provoqué chez vous quelques aigreurs d'estomac ?
D'aigreurs d'estomac, certainement pas. De l'aigreur tout court, certainement. Certainement. Parce que, bon, d'abord, là, on navigue en plein dans le cliché. Pagnol faisait dire à César, « Non, monsieur, le Marseillais ne mange pas de l'aioli tous les jours. » Ben, l'Alsacien ne mange pas la choucroute tous les jours non plus, et pas non plus du Beckhoff. Et lorsqu'on vous sert, au moment de la bonne saison, un plat d'asperges avec du jambon, je vous demande où se trouve la lourdeur. Il faut aussi là... je sais bien que les nourritures alsaciennes ont une réputation très roborative, bien entendu, mais enfin bon, je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. On a vraiment l'impression que qu'on mange des choses qui vous pèsent des tonnes sur l'estomac, vêtu du gilet rouge, avec le petit chapeau rond, et à côté, avec votre partenaire, avec le grand nœud noir. Je crois que là, franchement...
On est parfois à l'étroit dans les Vinstuben. Il y a quand même un petit côté,
avez-vous déjà mangé dans un bistrot parisien, avec des guéridons de 35 cm sur 35, où vous avez le coude dans le verre de votre voisin?
Je vous avouerai que ça m'est arrivé également.
Fort bien. Eh bien, c'est la seule réponse que je pouvais vous faire.
Annie Bloch.
Moi, je voudrais revenir d'abord sur l'idée de café. Je trouve que Philippe Breton voudrait importer des cultures méditerranéennes en Alsace. Je trouve que c'est tout à fait ridicule, d'abord, de penser de l'Alsace et penser café. Mais c'est un pays froid. On n'est pas dehors, la plupart du temps. Et donc, on a besoin de ces lieux quand même, que moi, je trouve très chaleureux et très conviviaux, qui se ferment, d'ailleurs, et ce n'est pas uniquement en Alsace, on trouve la même chose en Autriche, à Vienne, avec ces grands rideaux comme ça, épais, ces doubles rideaux, qui fait qu'on est protégé. De même, il y a aussi un espace très confortable, c'est où on peut poser des manteaux, et ça donne déjà l'idée d'aise, d'un certain bien-être. Alors, le problème de la pesanteur, moi, je ne crois pas que ça soit toujours un défaut, la pesanteur. Moi, j'ai une famille qui était bien en chair, des grands-parents, des parents. Et je trouve que c'était à l'époque, et c'est parfois encore toujours, le signe de bonne santé. Alors, en ce qui concerne la cuisine, je dirais que c'est vrai, la cuisine est très variée. Par exemple, La choucroute peut être un plat très léger, ça dépend avec quoi on la mange. Si on la mange avec du poisson, c'est extrêmement léger. Et puis il y a des terres, moi je sais que dans ma famille on mangeait beaucoup du vol au vent. Je veux dire, rien de plus léger que ces croustades au vol au vent. Et je trouve également qu'il y a des manières de composer le repas qui est extrêmement libre. Et ce qui est l'intérêt, à mon avis, des Wienstube et des Bierstube, c'est qu'on peut composer son repas comme on veut. On n'est pas obligé, quand on comme on le fait dans un certain nombre de restaurants, de prendre 3 ou 4 plats. On peut prendre une salade et un dessert. Et il y a une certaine liberté. Alors, quant à la proximité des gens, oui, mais est-ce qu'elle est si gênante? Et est-ce que, justement, le bruit ne vous aide pas à l'intimité?
Jean-Claude Richez.
Oui, alors, bon, là, je pense que Philippe Breton n'aime ni manger, ni sortir, et que c'est le fond du problème, puisque...
Et d'abord jour de carême pour lui. Malheureusement, il n'est pas là.
Non, mais on prendra la discussion. Par exemple, il explique que c'est pour celui qui est végétarien. Par exemple, il n'y a pas de place dans la cuisine alsacienne, ce qui est radicalement faux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de salades de fromage, salades de gruyère, salades de choucroute. Il y a toutes les théories de tartes qu'on a en général dans le restaurant alsacien. Il y a toutes les pâtes et spätzle, les asperges. Les pousses de houblon, il y a énormément de possibilités de manger pour un végétarien. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, et là c'est plutôt en tant qu'historien, il y a un effet de perspective qui est radicalement faux. C'est-à-dire qu'on présente en général aujourd'hui comme typique de l'Alsace le Wienstube. Et c'est un phénomène tout à fait récent, les Wienstube. Avant, par exemple, dans une ville comme Strasbourg, la forme traditionnelle de restauration, c'est au contraire la grande brasserie qu'on appelle aujourd'hui parisienne, mais qui en fait d'origine alsacienne, et qui étaient des lieux de sociabilité extrêmement importants. Il y avait encore d'immenses brasseries dans l'entre-deux-guerres à Strasbourg, où tout le monde se retrouvait, où on dansait, où on chantait, où il y avait des orchestres. C'était un élément absolument essentiel de la vie publique, de la vie politique, de la vie sociale. Et chaque parti, d'ailleurs, avait sa brasserie. Effectivement, ces grandes brasseries ont disparu après-guerre pour un certain nombre de raisons de société, mais qu'on voit un peu partout, et ont été remplacées effectivement par les Wienstube qui à l'origine étaient des débits de vin, puisque c'est la traduction littérale, comme on a d'ailleurs dans tous les pays de vignobles, où le récolteur, celui qui récolte le vin, le vend en ville, c'est-à-dire qu'il achète une petite échoppe où il vend son vin. Mais ça, c'était l'exception, et c'est un phénomène relativement récent qui est un peu lié à l'évolution de nos formes de consommation. Ensuite, sur la lourdeur. Là, c'est la même chose. Alors, c'est-à-dire que
je pensais vous réunir à table, mais je vois bien que je vous sépare finalement.
Sur la lourdeur, c'est le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des plats qui sont lourds, mais comme dans toute cuisine, disons, de terroir, entre guillemets, qui sont des cuisines paysannes et qui sont liées, et qui sont aussi des sociétés, liées à des sociétés où il y avait une relative rareté. Donc pour les repas de fête, on faisait de très gros repas qui, effectivement, devaient caler le corps. Parce que il y avait aussi la peur ancestrale de la faim qui revenait et qui frappait les populations. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que c'était souvent un travail manuel, et donc on a besoin d'emmagasiner beaucoup de protéines. Et toutes ces cuisines aujourd'hui ont évolué, et il y a une cuisine alsacienne qui joue exactement sur les mêmes registres, les mêmes codes, les mêmes variantes, et qui est extrêmement légère. Quand on va chez Berlin ou chez Westermann ou chez Emil Jung, dans les grands restaurants alsaciens,
qui ne sont pas des Bierstube, il faut bien le rappeler,
qui ne sont pas des Bierstube, qui sont plus chers, on a une cuisine extrêmement, extrêmement légère. Je pense que là, effectivement, c'est une image toute faite, un stéréotype sur la cuisine alsacienne. Je ne comprends pas que Philippe Breton, qui est d'habitude plus fin dans ses approches...
J'espère qu'il nous entend. En tout cas, ce que vous ne me dites pas aussi, c'est que c'est aussi une cuisine de saison. Je vous signale qu'on est quand même dans la semaine du goût actuellement. Je vous signale aussi qu'on est dans la saison de la choucroute nouvelle. Moi, je suis passé devant un restaurant hier soir où il y avait un gros chou à la porte. Comme on met la feuille de vigne pour le vin bourru, on présente des choux comme ça. Il y a des moments où tout de même la choucroute est plus légère. Jean-Claude Richez.
La choucroute, c'est pas un plat qui est particulièrement lourd. Ça dépend de la façon dont on le consomme. De toute façon, la choucroute, c'est d'abord une façon de conserver le chou dans un pays où effectivement la saison où on peut avoir des légumes frais est relativement courte. Donc, ça permet d'avoir des légumes tout au long de l'année. Et en général, ça se mange de façon très très légère. Le plat choucroute est lui aussi quelque chose de relativement récent, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on regarde les manuels de cuisine du 19e, on ne voit jamais le plat choucroute tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Bon, je vous propose alors de changer d'établissement.
Frédéric Luquel, ici, les assiettes sont au mur et aussi sur les tables. Les murs sont bleus. Où est-ce qu'on est exactement ?
Nous nous trouvons à un village qui est au flanc du Bassberg, Imsheim. Il y a un petit restaurant, le Poche-Parierstiebel, donc la chambre du Bassberg, mais c'est vraiment trop le déformer. En fait, il ne faudrait jamais le traduire parce qu'on détruit tout le charme. Il ne peut pas se retrouver. Mais ce que je voulais surtout dire à propos de cette Poche-Parierstiebel, c'est qu'on se trouve pratiquement dans une Wienstube, qui est un phénomène plutôt urbain, en pleine campagne. C'est une auberge de village qui a évolué en quelque sorte vers un modèle plus urbain. Mais qu'on soit à la ville ou à la campagne, l'Alsace, c'est l'Alsace. Alors évidemment, l'Alsacien, si on devait faire un portrait de l'Alsacien, il devrait naturellement, le cadre, ça ne peut être qu'une assiette, parce que l'Alsacien vit dans son assiette. Et alors là, nous avons des exemplaires d'assiettes qu'on appelle communément les faïenceries de l'Est, que ce soit Badonvillers, Saint-Dié, Épinal, mais aussi surtout Sarreguemines et Niederwil.
Et puis il y a des motifs qui nous rappellent à la fois oui. L'Alsace et la France, cela oui. Avec deux coques.
Oui. Des coques, des poules, des paons. Oui. Et c'est des motifs qu'on retrouve aussi sur les souhaits de baptême et l'ensemble de l'imagerie alsacienne. Alors naturellement, on se retrouve aussi dans des paysages presque maghrébins, si on regarde certaines assiettes un peu... Oui. Le tout est une question d'interprétation.
Enfin, si on est venu ici, c'est pour manger, il faut le dire tout simplement. C'est aussi pour parler de ce qu'on met dans les assiettes, ici.
Alors, justement, ce qu'on va manger, ce sera probablement du Beckhoff, qui est un plat alsacien typique, Eintopf. Hein, c'est-à-dire tout dans un... C'est en quelque sorte une potée. Mais c'est une potée plus consistante. Hein. On ne va pas vers le potage, mais naturellement, on retrouve pommes de terre, poireaux, carottes, et le tout, en fait, donc dans une terrine avec de la viande de porc, de bœuf, de veau et de mouton. Et cela est mijoté pendant 4 à 5 heures, normalement. C'est le plat que les paysans alsaciens amenaient chez le boulanger le matin. Et au retour...
Vous avez fait votre...
Oui, j'en prie. Oui. Qu'est-ce que vous prenez ?
Un Beckhoff.
Deux. Trois.
Alors, trois fois le Beckhoff.
Et pour boire ?
Un pinot noir ? Un pinot noir ou du blanc ? Un pinot blanc. J'ai le pinot blanc, carafe qui est très bon, ou alors un pinot noir qui va bien avec le Beckhoff aussi. Hein.
Plutôt le pinot noir.
Le pinot noir. Okay.
Frédéric Luquel, la commande étant passée, j'aimerais qu'on parle maintenant des bretzels.
Alors là, on touche un des mystères de l'Alsace, d'où vient le bretzel. Ça, alors, il y a deux villes, Ingwiller et Buxwiller, qui se disputent, en fait, l'origine, l'invention du bretzel. Mais l'histoire est exactement la même dans les deux villages. Le seigneur de Lichtenberg, Jacques le Barbu, après avoir perdu sa femme, a voyagé par Mont-Evo et a ramené de la rive droite du Rhin, du village d'Ottenheim, la fille d'un pêcheur, Barbe, la belle Barbe. Et cette belle Barbe était comme un peu dans la chanson de Brassens, en tout cas c'est surtout son côté peau de vache qui a retenu, est resté en mémoire, et en particulier c'est une spécialiste de l'incitation à la surfiscalisation, pour utiliser certains langages d'aujourd'hui, ce qui fait que il y a eu une guerre des femmes, des révoltes, et un jour un jeune homme, un garçon boulanger, un apprenti boulanger, Amédie, on disait aussi qu'elle était sorcière, Amédie s'est venue aux oreilles de cette compagne et domestique servante de Jacques le Barbu, qui était naturellement aussi sa maîtresse, et elle l'a fait emprisonner. Et il se morfondait en prison, et un jour, il a demandé grâce. Alors la belle barbe lui a dit, j'accepte que tu sois libéré, tu seras libéré à une condition, c'est que tu me fasses un gâteau à travers duquel on peut voir trois fois le soleil. Alors le garçon est revenu dans sa cellule et pendant des mois et des mois encore, ne trouvait pas cette solution. Et tout à coup, entre un énorme forgeron qui lui aussi avait eu maille à partir avec la justice et qui lui demande pourquoi il était tellement triste, qu'est-ce qu'il avait fait pour entrer en prison. Il a raconté son histoire, il a naturellement aussi comment il pouvait être libéré. Alors le forgeron a dit, mais il n'y a aucun problème. Il a arraché un barreau de la fenêtre, il l'a pris dans ses deux mains, il l'a plié, et ça a donné le bretzel, puisque à travers le bretzel, on peut voir trois fois le soleil.
Voilà, juste pour la légende, il y a du soleil dans le bretzel, après tout c'est joli, et parfois il faut peut-être y croire. Non, Roland Oberlé, vous n'y croyez pas?
Oui, c'est une très belle légende, enfin bon, de toute façon le bretzel est beaucoup plus ancien que ça, parce que là nous nous situons quand même pratiquement à l'aube de la Renaissance en Alsace. Or, nous avons déjà une très belle représentation des bretzels dans le fameux manuscrit de Hortus Deliciarum du XIIe siècle. Et il est probable que ce bretzel nous a été apporté par les Romains qui appelaient ça Panis Tortus. Donc il est probable que c'est très vieux. Il y a bien sûr tous les rites solaires qui sont liés à ça. Ça a d'ailleurs toujours été quelque chose de symbolique qui est devenu ensuite d'ailleurs le symbole de la corporation des boulangers dans toute l'Alsace.
Puisque je sens que ça va nous diviser, je préfère qu'on passe à un autre plat de résistance, les pâtes.
Oui.
Vous vous y intéressez depuis longtemps, Roland Berlet? L'histoire des pâtes en Alsace, c'est un petit livre que j'ai ici aux éditions Véter. Vous êtes un mangeur de pâtes, de nouilles?
Bien entendu. De nouilles, non. De pâtes, oui. Enfin, si vous saisissez la différence, il y a quand même une petite nuance. En fait, le problème consistait à savoir d'où venait cette nuance, cette différence qu'il y avait entre la tradition française et italienne, je devrais dire italienne et française, de pâtes, au semoule de blé dur, tout simplement, et l'apport des œufs frais dans la pâte alsacienne. Alors évidemment, à ce sujet-là, on a dit beaucoup de choses. Comment les pâtes sont-elles venues? On a beaucoup parlé de Marco Polo. C'est pas, d'ailleurs, on en dit beaucoup de bêtises à ce sujet, puisqu'on a trouvé un tombeau étrusque sur les parois duquel il y avait gravé un appareil à laminer la pâte et un appareil à le débiter, et à le débiter en lanière. Donc, déjà, ça remonte à loin, même si c'est à l'époque de la décadence étrusque. Alors, évidemment, ensuite, on a dit, oui, c'est venu en Alsace, cette curieuse habitude est venue en Alsace. Bon, j'ai vu ça dernièrement dans un ouvrage qui est paru à Paris. C'est venu en Alsace à la veille du XVIe siècle par l'Allemagne. Bon, ce qu'il faut expliquer quand même de temps en temps aux historiens de là-bas, c'est qu'au XVIe siècle, l'Alsace, c'est l'Allemagne.
Vous placez des frontières très nettes entre Paris et l'Alsace.
Non, mais c'est très net. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On ne se rend pas très bien compte. On dit, c'est venu en Alsace par l'Allemagne. Au XVIe siècle, ça ne veut rien dire. Strictement rien dire. Or, à l'époque, nous avions des milliers d'Alsaciens qui ont combattu soit du côté des Suisses, soit du côté de François Ier, enfin des rois de France, pendant la guerre d'Italie, qui se sont promenés jusqu'au fin fond de la botte, et qui en sont revenus en définitive en Alsace avec deux choses, la syphilis et la recette des pâtes.
Ce qui m'intéresse, moi, Roland Oberlé, c'est l'aventure industrielle récente de l'industrie des pâtes.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle est vraiment récente. Parce qu'en définitive, il y a eu un moment où les choses ont évolué. La tradition de faire des pâtes est une tradition qui s'est toujours léguée de mère en fille dans les familles. Bien entendu, ces pâtes étaient faites avec de la farine et des œufs.
Là, je vous suis.
qu'on faisait donc sécher sur les édredons. Enfin, bon, tout le monde, dans toutes les familles d'Alsace, on se souvient encore de cette chose-là. Et puis, brusquement, on est arrivé à une espèce de monopole des boulangers, qui ont commencé à en faire, peu parce qu'on n'avait pas encore trouvé le système pour les sécher. Donc, c'était un produit périssable. Autrement dit, vous ne pouviez pas faire beaucoup de...
Mais tellement bon, comme chantait Jacques Brel. Hein.
Et ensuite, quand on disons au début du Second Empire, les premières machines qui ont permis de provoquer une certaine dessiccation des pâtes sont arrivées. À ce moment-là, on a commencé, et en Alsace, on a commencé à fabriquer des pâtes. Et on a fabriqué des pâtes toujours suivant la recette que vous trouvez dans un livre de cuisine du XVIIe siècle. C'est très net, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui vous indique que pour l'équivalent d'un kilo de farine, il vous faut 6 ou 7 ou 7 œufs, etc. Et donc, on a adapté cette formule. Autrement dit, avec ensuite les lois, l'application de la loi française qui exigeait la fabrication exclusive des pâtes avec de la semoule de blé dur et non pas avec de la semoule de blé tendre, comme ça se fait par exemple dans les pays asiatiques. Nous obtenons donc un produit qui, en ce qui concerne l'utilisation...
Incollable sur les pâtes. Hein.
Ouais. Nous obtenons un produit qui...
Non, ça
c'est préférable, oui, parce que c'est plutôt désagréable quand elle colle. Nous obtenons un produit qui finalement a un certain aspect, mais qui a un tout autre goût, parce que bien entendu, les œufs en plus, les œufs en moins, c'est pas la même chose.
Petite question que je me pose quand même. En Italie, on a de très grandes variétés de pâtes, de formes en tout cas. En Alsace, Jean-Claude Richesse, on trouve des variétés importantes? Je connais le nom de Spätzle, ne prononce peut-être pas bien, vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
On n'a pas une aussi grande variété, mais il y a quand même des utilisations très différentes. On les a aussi en ravioli, comme on les a sous forme de spätzle, les a sous forme de nouilles. Il n'y a pas une aussi grande variété, mais il y a une certaine variété de pâtes.
Encore en ce qui concerne les spätzle, il n'y a qu'une seule maison qui en Alsace en fabrique.
Hein. Ça se fait à la maison.
Écoutez, on va poursuivre ce petit parcours culinaire, mais pour l'instant, sur France Culture, il est 18h.
En raison de l'arrêt de travail de certaines catégories de personnel, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter les titres du journal de 18h30. Je vous rappelle qu'en raison de l'arrêt de travail de certaines catégories de personnel, nous n'avons pas été en mesure de vous présenter les titres du journal de 18h30. Il est 18h02 et pour parler de cuisine et de convivialité, nous retrouvons au forum de la FNAC à Strasbourg pour le pays d'ici, Yves Aumont et Jean-Yves Bizet.
Sada, qu'est-ce que vous aimez bien en cuisine?
J'aime beaucoup de choses. J'aime bien le poulet aux olives que ma mère nous prépare. Tout ce qui est fait à base de riz. sur plein de choses, je sais pas. La cuisine alsacienne, j'aime pas trop.
Pourquoi?
Si, j'aime bien la choucroute au poisson. Pourquoi? Parce que... c'est gras. Et tout ce qui est fait, pratiquement, toutes les spécialités alsaciennes sont faites à base de porc. Et je suis de religion musulmane, donc je n'en mange pas. Et voilà, quoi.
Mais la choucroute au poisson, ça...
C'est excellent. Ouais. Et effectivement, la dernière fois, je regardais un film, c'était sur les Alsaciens. Et il y avait un cuisinier qui disait que c'était le premier à avoir fait cette recette. Et quand il avait décidé de mettre du poisson, il avait eu des lettres de réclamation. Et là, ça prouve que les Alsaciens sont renfermés. Parce que je pense qu'il faut innover dans tout, même dans la cuisine.
Alors,
tu peux faire un mélange de tout, du poisson à la choucroute, c'est bon. J'ai pas dit du poisson pané. Hein.
Annie Bloch, nous poursuivons notre petit voyage culinaire. Depuis le début, je me dis que j'ai fait une erreur. J'aurais dû parler des cuisines en Alsace, peut-être.
Oui, je crois effectivement que je comprends très bien notre interlocutrice, parce que il y a pour un certain nombre de traditions et de traditions religieuses, la cuisine qui se fait en Alsace, on est obligé de transgresser des interdits. Si on veut manger la cuisine à base de porc, qu'on soit musulman ou qu'on soit juif, ça ne correspond pas au rite de cacheroute en ce qui concerne la tradition juive. Et l'idée de mettre de la choucroute avec des saucisses faites de porc, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. De même, l'importance du lapin en Alsace, ce sont des plats qui ne peuvent pas être mangés ni par des juifs ni par des musulmans. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs cuisines. En tout cas, on peut dire des cuisines adaptées, et des cuisines d'autant plus adaptées qu'elles correspondent à des rites de passage ou à des fêtes. Et dans les fêtes juives, il y a un certain nombre de cuisines qui sont spécifiques. Alors je parlerai, par exemple, vous n'en avez pas parlé, du pot-au-feu avec des crudités. Je parlerai aussi de toutes sortes de desserts, et notamment pour les Pâques juives, pour Pessah, sans farine, uniquement avec du pain azim. Et il y a une adaptation des traditions et des obligations culinaires qui se fait face à la norme. Donc il y a une nécessité d'adaptation. Et puis il y a des cuisines dont vous ne parlez pas du tout et qui sont très traditionnelles et qui se fait dans les familles juives. Je pense notamment au kugel. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est le kugel.
Non.
Le kugel est typiquement juif alsacien et c'est un plat qui se fait avec de la farine, qui se fait également avec de la graisse de veau, qui se cuit dans une cocotte en fonte, à l'intérieur duquel on met des couches de sucre avec des fruits. Et ceci constituait un plat presque complet le midi. Et ceci est très peu dit, peu connu, et c'est vrai que c'est une cuisine différente de celle dont nous avons parlé.
Nadia Sada nous parlait également des recettes de sa mère. Je crois que vous êtes venue avec un petit carnet. Alors vous n'allez pas m'énumérer toutes les recettes qu'il y a dans ce petit carnet. Qui a servi.
Oui, c'est un carnet qui a été écrit par ma mère pendant la guerre en 40. Je crois qu'elle avait peur de perdre les recettes de ses tantes, de sa mère, et elle a écrit toutes les recettes dont elle se souvenait, avec l'aide aussi d'une dame qui l'accueillait. Alors, il y a ce fameux kugel, il y a la choucroute également, il y a les gâteaux au chocolat, les gâteaux aux amandes, et vous savez que les amandes en Alsace, comme les épices, c'est un des fondements de la cuisine. Et les épices ont beaucoup circulé et sont très très importantes dans la cuisine en Alsace.
Jean-Claude Richez, le kugel, vous connaissez ?
Non, je ne connais pas le kugel. Annie ne m'en a jamais préparé. C'est dommage, je goûterais bien le kugel. Mais je pense que il faut faire attention, c'est-à-dire que toute cuisine repose fondamentalement sur des échanges. Il y a des échanges permanents dans la cuisine. Il n'y a jamais une cuisine comme ça fixée à un moment donné. La cuisine, c'est l'invention. Il y a juste ce qui fait des cuisines régionales, c'est juste les produits. C'est-à-dire, c'est une certaine combinaison de produits du terroir. Dans les pays où il y a beaucoup de haricots, la base, ça va être le haricot. Dans d'autres, ça va être le couscous. Ici, c'est le chou. Mais ensuite, je pense que ce qui fait la cuisine, c'est l'échange permanent. En particulier, si on regarde la cuisine alsacienne, elle a emprunté énormément à d'autres cuisines, et en particulier aux cuisines du reste de la France. Il y a par exemple le fameux foie gras, qui est certainement plus dont on attribue l'origine aux cuisiniers de Contade au XVIIIe, qui était certainement plus ancienne. Mais effectivement, à ce moment-là, c'est réactivé.
Julien Kern, je vous trouve bien silencieux. Vous ne mangez pas
ou oui,
vous
si, coupez l'appétit. Si, je mange. Non, pas du tout.
Vous êtes d'une génération fast food.
Non, pas tout à fait. Mais ce qui est vrai, et c'est peut-être aussi un bon point finalement, comme j'ai plutôt l'habitude de manger des choses plus simples, c'est vrai, nourriture d'étudiants, puis c'est pas des choses élaborées. Et du coup, la cuisine alsacienne, comme on peut la servir dans les restaurants, dans les Wienstube, ça devient une cuisine de fête. Donc finalement, on revient un peu au principe de base qui était ces plats un peu élaborés, un peu riches, ces choses qu'on mange exceptionnellement quand on aime bien se retrouver avec des amis. Quoi. Donc c'est...
À la maison, c'est vous qui cuisinez ?
Souvent, oui. Mais des choses très simples de tous les jours. Hein. Je ne suis pas un cordon bleu.
Et vous, Roland Berlet, je suppose que vous êtes un cordon bleu ?
Oui, je suis célibataire environ 6, donc je cuisine depuis l'âge de 12 ans. Je cuisine depuis l'âge de 12 ans et donc... j'ai expérimenté pas mal de choses. Et quand j'en ai le temps, effectivement, j'aime bien m'installer devant mes fourneaux, c'est sûr.
Ouais, et puis dans les fourneaux, parfois, on a chaud, alors il faut boire un peu. Hein.
Liliane Hering, on est ici au premier jour des vendanges, pratiquement.
On peut ainsi dire, oui, un des premiers jours, je dirais le vrai début se situera que lundi prochain. Ça, c'est plutôt une mise en forme.
Mise en forme et en même temps, les premières grappes sont là. Là, on est en train de régler chez vous les machines pour grapper le raisin. Là.
Oui, c'est ça. Donc, si je disais mise en forme, c'est un petit peu pour tester les machines aussi, pour voir si elles sont encore en bon état, si rien n'a été oublié. Parce que nous sommes une toute petite équipe aujourd'hui, ce qui nous permet de travailler quand même dans de bonnes conditions et sans être trop stressé.
Le stress va venir quand ?
Ah, ce sera lundi. Ce sera lundi quand l'équipe sera au complet. Alors là, il faudra quand même que ça tourne bien.
Le domaine Hering, c'est combien d'hectares ?
Nous avons actuellement 10 hectares en production et nous avons les deux appellations. Donc pratiquement 50% de notre superficie se trouve au Kirchberg.
Rappelez-moi les appellations et les cépages.
Alors bien sûr, les 7 cépages d'Alsace, je vais vous les énumérer rapidement. Pour commencer avec le Sylvaner, qui est donc le vin désaltérant, le vin le plus discrètement fruité, le plus facile à boire parce qu'il n'est pas trop alcoolisé. Ensuite, nous connaissons le Pinot Blanc, le Riesling, bien sûr, qui est le roi des vins d'Alsace, le Pinot Gris, qui lui a un peu plus d'ampleur, moins d'acidité, le Muscat, qui est bien sûr le vin de préférence à l'apéritif, le Gewürztraminer, le compagnon fidèle du foie gras, Et je ne devrais pas oublier le 7e, qui est donc le Pinot Noir, qui se distingue par rapport aux autres, qui est donc un vin rouge.
Si on allait faire un tour au caveau, parce que là, il faut le dire, on est quand même dans un courant d'air et la brume d'Alsace nous tombe un peu sur les épaules, là, non ?
Oui, si vous voulez.
Pour les vendangeurs, ça va pas être très...
Oui, il faudrait peut-être qu'ils soient bien habillés aujourd'hui.
Bon, on va vers le caveau ?
Oui, allez-y.
Pardon.
Donc Donc, nous allons goûter maintenant Riesling Kirchberg 92. C'est un vin qui, dans un premier temps, se présente de façon sympathique, puisque sa couleur est d'un jaune clair, avec des reflets un petit peu de jaune paille, oui, mais jaune, très peu. Je dirais que c'est encore un vin qui, puisque c'est un Riesling. Hein. Pour un Riesling, c'est quand même une couleur déjà bien soutenue, ce qui nous prépare à goûter un vin qui ne sera pas trop charpenté ni trop capiteux. Ensuite, nous allons commencer à le découvrir au niveau de ses arômes. Donc, on va humer, on va passer à la phase olfactive. Et pour bien être réceptif et bien sentir le caractère aromatique, il est toujours intéressant d'aérer le vin dans le verre. Alors, au nez, c'est un vin qui a un caractère d'agrumes, agrumes bien mûrs. On pourrait rentrer un petit peu dans le un peu abricot, coin, et puis bien sûr agrumes pamplemousse. Hein. Avec cette petite pointe minérale qui est déjà présente.
Passons, je dirais, à la troisième phase de la dégustation maintenant.
Oui, donc c'est
le vin en bouche.
C'est la phase gustative qui nous permet donc de découvrir le corps du vin.
Je peux me permettre, je vous retire le vin de la bouche. Je vous assure, nous l'avons dégusté et il était très bon. Ceci dit, Jean-Claude Richesse, vous vouliez intervenir ?
Non, mais je trouve que c'était tout à fait scandaleux. Vous nous mettez au régime sec en nous faisant écouter l'énumération des vins, dégustation. Là, je meurs de soif. Hein. Là,
écoutez, je vous propose de l'eau pour l'instant. En tout cas, ça, je vous l'assure, nous ne boirons que de l'eau dans cette émission. Ceci dit, plus sérieusement, les vins, vous, Julien Kern, sinon ça...
Si, quand même, si. Le vin blanc, surtout d'Alsace. Ouais. C'est vrai que... Enfin, les vins blancs d'Alsace, quand même...
Mais vous n'êtes pas...
Ah, si, j'aime bien. Je suis quand même... Je ne suis pas un grand connaisseur, hein, bien sûr, mais...
Vous avez l'impression qu'il y a un fossé de génération entre... Je dirais des amateurs de vin et vous.
Oui, je pense quand même. C'est comme pour la cuisine d'ailleurs. Hein, j'ai l'impression que effectivement, on fait partie d'une génération, comme je disais tout à l'heure, où la cuisine vraiment alsacienne typique, comme on dit, et les vins qui l'entourent, c'est quelque chose dans notre génération. On a l'habitude de consommer ça que de manière exceptionnelle, quoi.
Un très très beau terrain d'apprentissage, vous savez ici, Annie Bloch.
Moi, je voudrais dire que c'est vrai que j'aime beaucoup les vins et il y a tout un art de mettre en relation les vins et les mets. Et ça, c'est très important. Mais ça s'apprend très progressivement. Et moi, je dois dire, je me suis intéressée assez tardivement au goût du vin associé à la nourriture. Je voudrais aussi dire qu'il y a toute une part en Alsace qu'il ne faut pas négliger, c'est la part des eaux de vie. Et le schnapps, ça fait partie finalement d'une fin de repas.
On attaque la période digestive.
Là. Absolument nécessaire pour bien finir un repas. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que non seulement il y a des échanges, des combinaisons dans la cuisine alsacienne qui viennent de France, mais aussi qui viennent d'Europe centrale. Je pense à la Hongrie, je pense à Vienne. Et c'est cette combinaison qui est intéressante et qui fait que c'est une région assez somptueuse au niveau culinaire, comme au niveau des vins.
Puis il y a aussi, je dirais, cette nature alsacienne où il fait bon aller. Là on parlait bien sûr de la saison des vendanges. Je rappelle qu'on est dans la semaine du goût. Je rappelle que les vendanges ont commencé ici. Oui, sur les dates, je ne me trompe pas, Jean-Claude Richesse, sur les dates des vendanges. C'est bien... Hein, j'ai un petit souci. Les vendanges tardives, tout de même, dont on parle beaucoup en Alsace, jusqu'à quelle période? Enfin, jusqu'à ce que le soleil...
Hein, oh, ça peut aller...
Roland Berlet.
Ça peut aller largement au-delà du mois de novembre. Oui. Ça peut largement. Et quand vous faites une sélection de grains nobles, c'est encore, vous arrivez encore plus loin.
Il faudrait voir votre sourire. Là. J'ai l'impression que vous me narguez là, oui, non, mais en me disant que je vais partir en octobre.
Je crois que pour répondre un peu à la question que vous posiez, je crois qu'effectivement, alors qu'on est en train de produire des produits de plus en plus sophistiqués, disons, qui ont, au point du goût, qui répondent de plus en plus, qui se rapprochent de plus en plus de la perfection, on se rend compte effectivement qu'au niveau de la nouvelle génération qui arrive, là, il y a une démission. Il y a une démission, mais c'est pas, ils n'en sont pas responsables. Je crois qu'il y a un problème d'éducation à faire. Et quand je vois de temps en temps un instituteur qui se tue en classe à expliquer à ses enfants qu'il faut manger ceci, etc., et qui, le samedi, emmène ses propres enfants au fast-food du coin, évidemment, il y a un problème qui se pose. Je crois qu'il y a une contradiction même au niveau des adultes qui sont censés transmettre.
Vous allez me dire que tout va à volo alors qu'on était sur la période des digestifs. Jean-Claude Richesse, vous n'avez pas l'air d'accord du tout.
Non, sur cette histoire de génération, je suis radicalement... Je suis d'accord. C'est-à-dire que le problème de la cuisine et du vin, c'est peut-être une question d'âge, mais certainement pas une question de génération. La rupture, elle est là. C'est-à-dire que c'est à partir seulement d'un certain âge qu'on commence à privilégier les plaisirs de la bouche et qu'il n'y a pas du tout de rupture au niveau des générations.
Les statistiques
au contraire,
sont contre vous. Les statistiques sont contre
mais
vous.
Oui, puisque mais c'est pas un problème de génération, c'est un problème de classe d'âge. Effectivement, il y a une autre question qui est une question de fond. On parle de ces journées du goût, de cette semaine du goût. Mm-hmm. On remarquera qu'elles sont organisées par les industriels du sucre. Industriels du sucre qui, eux, sont des criminels, puisque effectivement, le sucre la prolifération et l'abondance de sucre nuit. Nuit au goût.
Attendez, je suis allé sur le marché avant-hier, il y avait des responsables de la semaine du goût, j'ai goûté un peu de charcuterie et je peux vous dire que c'est un gros enjeu d'ailleurs, parce que je me suis renseigné un peu sur les chiffres. La charcuterie alsacienne, le savez-vous, a doublé ses effectifs en 10 ans. Alors c'est aussi quelque chose qui est non pas aussi du registre du salé, du sucré salé.
Non, mais je parle du sucre, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à mettre de plus en plus de sucre dans les vins, dans les bières, dans l'ensemble dans toute l'alimentation. Et ça, effectivement, ça risque à terme de dégrader le rapport à l'alimentation. Mais je ne pense pas qu'il y ait une véritable rupture entre générations.
Oui, moi, je crois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Claude Richesse. Pas en ce qui concerne les générations. Je dis qu'il faut un apprentissage et que manger, ça demande du temps. Et la génération qui a 20 ans, elle n'a pas envie de prendre son temps à manger. Et on se souvient des heures qu'on devait passer à table sans bouger.
Apprendre à prendre son temps, c'est aussi une leçon de vie. Hein.
Antoine Westermann, vous pouvez me décrire un peu les lieux où on est ?
Eh bien, ici, vous êtes dans une maison qui, à l'origine, est à Molsheim, une petite ville qui est à 30 km de Strasbourg, qui a donc été démontée, un peu comme un mécano, et remontée ici dans le parc de l'Orangerie pour les besoins d'une exposition qui a eu lieu au début du siècle. Et dans ce parc où je me trouve, il y avait beaucoup de pavillons pour les besoins de l'exposition. Et la seule maison qui reste, c'est donc cette maison alsacienne qui est maintenant devenue mon restaurant.
Une maison alsacienne au cœur de l'Europe.
C'est bien ça. Je suis à vol d'oiseau, à 300 mètres des bâtiments du Parlement européen.
Alors, si nous sommes venus vous voir, Antoine Westermann, c'est pour affiner notre goût alsacien. Que faites-vous avec la tradition aujourd'hui, au cœur de l'Europe, vous ?
Oh ben, la tradition, c'est tout le fil, c'est le fil conducteur qui permet d'avancer. On ne peut pas ignorer la tradition. On dit que le passé, c'est le passé, mais quand on fait abstraction du passé, quelque part, on perd ses racines. Et moi, j'en ai vraiment besoin parce que dans la cuisine alsacienne proprement dite, eh bien, en tant que cuisinier, je réinvente, je revisite un peu les recettes puisqu'on ne mange plus aujourd'hui comme on mangeait il y a de ça 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais je dis toujours transformer, mais en respectant l'origine. Alléger, encore une fois, s'adapter au goût du jour, mais garder l'identité, ça me paraît primordial.
Pour vous, la cuisine, c'est aussi des souvenirs d'enfance. Votre père qui cuisinait le dimanche matin.
Oui, c'est vrai que moi, si je suis devenu cuisinier, c'est pas par hasard, c'est que je suis né dans une famille où le bien manger avait une importance capitale. Tout se passait autour de la fête, autour de la table. Alors la table était synonyme de joie, de rencontre. C'était pas, Je veux dire, c'était pas tous les jours du foie gras, ni du turbo, ni du caviar. D'ailleurs, je connaissais pas ça quand j'étais jeune. C'était des mets simples. Ma mère cuisinait la semaine, mon père le dimanche. C'était des mets simples, mais cuisinés avec cœur. Et surtout, autour de la table, il se passait quelque chose. Il y avait une convivialité, il régnait une ambiance. Et il y avait un esprit. Et c'est un peu à cause de ça que je suis devenu cuisinier. Pas seulement pour faire de la bonne cuisine, mais aussi pour donner un peu de bonheur aux autres.
On dit de votre cuisine qu'elle pratique les mariages, certes, mais pas trop de polygamie dans les plats.
Et si vous voulez, moi, je vous disais tout à l'heure que le terroir, pour moi, c'était mes origines et que je ne les reniais pas. Ceci dit, je suis absolument ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur, puisque à partir du moment qu'on n'a pas cette ouverture, quelque part, on meurt à petit feu, mais à coup sûr. Hein. Donc, je ne me gêne pas du tout de choisir les meilleurs produits où je les trouve. Ce n'est pas par chauvinisme que je ne prendrai que des produits alsaciens, pas du tout. Et si demain, je me déplace à Biarritz ou à Nice ou à Bangkok, et si je trouve quelque chose qui me plaît, ben, je prendrai.
Alors, vous n'avez pas peur dans ce registre-là d'une mondialisation du goût? Justement, d'une déperdition de la saveur et des racines?
Oui, c'est le grand sujet qui est à l'ordre du jour. Non, je crois que c'est un faux problème. Vous savez, la cuisine française, de tout temps, elle a été ancrée dans les différents terroirs. Alors, il y a eu, un peu comme la mode, quand les jupes s'allongent ou se raccourcissent, il y a eu des phénomènes de va et de revient. Actuellement, c'est un peu la tempête. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que les temps sont plus difficiles. Alors, c'est comme dans les ménages, quand ça va plus mal, on se sépare, on se tape sur la figure. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Tout ça va se remettre en place et la sagesse l'emportera. La cuisine française a une réputation mondiale. Tout le monde nous a copié, et ça, je peux le dire, nos voisins limitrophes, toutes les frontières qui nous entourent, ils essayent tous de faire de la cuisine française. Et donc, c'est pas maintenant qu'on va lâcher le morceau et dire on perd notre identité. Encore une fois, il faut une base. C'est comme le musicien. Rares sont ceux qui savent jouer sans solfège. Dans la cuisine, c'est pareil. Il faut quelque part, donc, ces fondations autour desquelles tout est permis. Hein.
Quel est le mariage culinaire alsacien dont vous êtes le plus heureux, vous?
Ben, je citerai peut-être des grenouilles qui sont accompagnées de petites ravioles à l'alsacienne qui s'appellent des Schnitzerspätzl. Tout ça pourquoi? Parce que c'est sentimental, parce que c'est ma mère qui m'a appris à faire ces Schnitzerspätzl. C'était un plat qu'on faisait les vendredis, qui était jour maigre, qui coûtait pas cher, donc il y avait de la farine, de l'eau, des oignons et des vinaigres Melfort, encore un produit alsacien. Et ça, c'est mon produit, enfin mon plat coup de cœur, parce que un jour, une des premières fois où elle a vu ce plat, évidemment, je lui ai fait goûter. J'ai dit: maman, qu'est-ce que t'en penses? Alors elle me regarde, elle dit: écoute, c'est très bon, mais t'es pas assez généreux, je les faisais 10 fois plus grands que toi.
Voilà, ce sera pour nous en tout cas une conclusion provisoire, puisque nous arrivons pratiquement au terme de notre troisième étape. Mais vous pouvez prolonger les agapes, d'une part, ça je vous y engage, et poursuivre le voyage à l'écoute de France Culture avec l'émission Lieu de mémoire, où il sera aussi question d'Alsace. Mais vous pouvez aussi poursuivre, j'irai, ce voyage ce soir en regardant Arte avec la soirée Théma Jean-Claude Richesse. Vous êtes à l'initiative, au moins un des initiateurs de cette soirée. Est-ce qu'on y parlera gastronomie?
Oui, on y parlera gastronomie, on y parlera de tout ce dont on a discuté depuis 3 jours, des images, des stéréotypes, de la tentation du repli, mais aussi de la formidable ouverture que représente une société où les cultures cultures différentes, les langues différentes se rencontrent et se confrontent.
Plus précisément, qui on verra, qui on entendra.
Oui, ce soir il y aura donc quatre films, trois documentaires plus exactement, et un film. Le premier, c'est le voyage d'un Français de l'intérieur en Alsace. Le deuxième, c'est le journal de voyage d'un Allemand. Le troisième, c'est une Américaine qui découvre, qui nous fait découvrir la vie culturelle, intellectuelle, artistique de Strasbourg dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'on a voulu aussi croiser les regards. C'est ce qui nous semble extrêmement important, celui d'un Parisien, celui d'un Allemand et celui d'une Américaine. Je pense que c'est tout à fait important pour une société que de pouvoir et de savoir se confronter au regard de l'autre. C'était le parti pris de cette soirée qui se termine avec la présentation d'un film qui a été tourné en 1938 qui s'appelait « Paix sur le Rhin » d'un auteur alsacien qui a écrit des choses d'ailleurs assez intéressantes sur le rapport entre la France et l'Allemagne, sur la guerre. Il y a un très beau livre de souvenirs de guerre, enfin un roman à partir de ces souvenirs de guerre qui est tout à fait remarquable.
Je vous remercie quant à moi de cette annonce apéritive. Alors donc vous savez effectivement où vous pouvez écouter la radio, regarder la télévision. En tout cas, vous ne mangez pas en même temps. Vous faites les choses un peu séparément tout de même. Un peu de respect pour l'une et l'autre des choses. Merci à vous quatre. C'était le Pays d'ici en Alsace. Jean-Claude Aimé, Sylvain Jaffré, Jean-Yves Bizet, Yves Aumont, bonsoir et bon appétit.
C'était Strasbourg, des fêtes, des repas, des rituels. Un numéro du Pays d'ici de Yves Aumont, diffusé pour la première fois le 17 octobre 1996.